Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire,
dont nous amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Juste près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas ».
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. L'été fini, les récits de voyage prennent toute leur saveur. C'est pourquoi nous nous proposons de vous embarquer pour quelques destinations exotiques grâce au talent de jeunes écrivains. En effet, depuis 4 ans, Libération et l'Association pour l'aide des jeunes auteurs, la PAJE, organisent un concours de reportage sur le thème du voyage réservé aux moins de 30 ans, parrainé par Éric Orsenin. Le thème de l'année était « Portrait de ville », une approche personnelle et originale d'une cité, d'un quartier ou de ses habitants. Aussi, partons-nous en mal d'exotisme vers la Porte de l'Orient. Europe et Asie est décrite par Lorraine Berryau, intitulée « La fille de joie ». Ce portrait a été publié le jeudi 16 août 2012 dans le quotidien Libération.
Chacun trouve ce qu'il est venu chercher à Istanbul. Les banquiers en week-end d'affaires y voient une ville moderne, des gratte-ciels et des McDonald's. Il y en a partout. Le capitalisme transpire dans cette mégalopole de près de 15 millions d'habitants qui grouillent entre deux taxis. Ceux qui ont été bercés par les mille et une nuits s'extasient en pénétrant dans la mosquée bleue ou devant le regard ravageur d'une femme voilée au détour d'une ruelle du marché aux épices. Ils retrouvent, comme ils l'espéraient secrètement, tous les clichés de l'orientalisme amenés par wagons entiers de l'Orient Express depuis plus de 100 ans. Les baroudeurs qui viennent sans a priori sont conquis par la ville, la bienveillance, l'hospitalité et la gentillesse des habitants, ces mélanges, tous azimuts, ces avocats en costard-cravate qui achètent du haut de leur 4x4 un bouquet de marguerites à des gitanes en guenille, ces cargos chargés de pétrole qui manquent de faire chavirer les petits pêcheurs, ces vendeurs d'amandes bousculés par les jeunes filles en talons aiguilles qui se faufilent entre le kitsch de décoration de Noël en plastique et des portraits des morts pour la liberté. Le Grand Bazar n'est plus seulement un quartier, c'est une ville elle-même qui s'offre ainsi. Carrefour millénaire où s'entrechoquent culture, langue et couleurs du monde. Mais bien vite, tout se dissout tel le raki dans l'eau. L'étranger vacille comme pris aux tripes par cet alcool entêtant. Ce sont les métaphores physiques qui conviennent à cette ville, celles qui rappellent la pénétration insidieuse mais puissante d'un poison qui enivre lentement, serre le cœur et coupe les jambes, plonge dans une passivité forcée mais délicieuse. Tout glisse sous le regard, même ces géants d'acier venus de la mer Noire et qui voguent lentement vers l'Amérique. Tout se démultiplie, camions de moutons, chariots de glace, marmites de soupe. Tout s'accélère toujours, comme ces cercles décrits par les derviches sur le point d'atteindre la transe. Il est temps d'entrer dans la danse. La paume de la main droite présentée au ciel pour recueillir la grâce, celle de la main gauche dirigée vers la terre pour l'y répandre. De devenir un passeur anonyme dans cet extraordinaire déferlement de buis. Même sous le pire des orages, on ne lâcherait ce rôle pour rien au monde. Avec cet entêtement aveugle de ceux qui assurent tremper jusqu'aux os, qu'à Istanbul, même la pluie est magnifique, le manque de sommeil contribue aussi à faire perdre les pédales. Quand les boum-boum étourdissants des clubs s'arrêtent, c'est la prière du muezzin qui vous empêche de dormir, alors que les vendeurs de métaux prennent le relais en proposant leurs services, interrompant la mélopée d'un joueur de saz aveugle ou la commande qu'une vieille dame vocifère à son épicier du haut de sa fenêtre. On demeure éveillé à tout prix. On cède à la torpeur de cette vie qui ne s'arrête jamais sans avoir vraiment commencé. Sans jamais s'être couché, on se lève pour ne rien faire. Pour savourer ce monde par le simple fait de savoir qu'il est à portée de main. Pour se faire livrer des chips, de l'effesse, des cigarettes, pour regarder la télévision qui tourne en boucle, pour faire mille et un plans en s'engueulant, pour se retrouver à minuit dans le même bar que la veille, le temps de redevenir champion du monde de baby-foot, de jurer qu'on ne tombera plus amoureux, qu'on ne remettra plus les pieds ici, de s'échouer sur un banc au bord du Bosphore et de pleurer sous le regard bienveillant d'un vendeur de thé. Yarin Gidiyorum, demain, je pars. Que l'on dit dans un dernier soupir avant l'aube. L'appel du large et la démission planent constamment sur cette ville dont personne ne semble venir, dans laquelle personne n'avoue être né. Mais tout cela n'est qu'un jeu. Celui-ci ne fera guère plus qu'un tour de moto à quelques kilomètres. Celui-là est capable de repousser pendant plusieurs années ce week-end de visite à sa famille qui ne lui prendrait que 5 heures de bus. Istanbul n'est qu'une gigantesque aire de jeu. Le plus trivial d'entre eux, d'abord omniprésent, celui de l'apparence. Toujours sortir de chez soi apprêté comme pour 10 mariages, alors qu'on passe ses journées dans un pyjama large comme 4, en sachant que tous les voisins font pareil. Celui de la grande négociation et de la grosse colère, jouée par toute une équipe de commerçants contre toute une équipe de clients, avec des changements de poste selon l'heure du jour ou de la nuit. Celui divin de la prophétie que l'on se fait lire dans le marc de café, sans y croire, mais sans non plus oser renoncer à entendre ce qu'on espère. Celui, bien plus noir, d'un gouvernement qui envoie à la case prison chaque matin des étudiants et des intellectuels sans même leur laisser la possibilité de lancer les dés. Comme le gras d'une broche à kebab, Istanbul suinte tout à la fois le sang, le grotesque et la splendeur. Comme en ces jours de marathon international, seul moment de l'année où des piétons sont autorisés sur le pont qui relie l'Europe à l'Asie, auquel s'inscrivent les plus grands coureurs kényans. Il y a là des familles entières qui souhaitent simplement faire un barbecue devant un tel panorama, mais aussi tous ceux qui ne voient plus comme espoir que de sauter. En finir, dans ce bras de mer gorgé d'histoire, présent à n'importe quel endroit de la ville à tout moment. Le Bosphore, comme rappel inconscient qu'Istanbul n'est pas un point, mais une droite, dont on ne verra jamais la fin sans avoir vraiment su par où ni comment on y a débarqué. Une droite qui glisse entre les doigts, qui vous échappe en une fraction de seconde, comme une amante vexée peut se lever de table et sortir en claquant la porte sans un mot, ni un dernier regard, balayant tout espoir sans aucune explication. Beaucoup ont chanté Istanbul. Nombreux sont ceux qui ont raconter une femme. Tous n'ont pas osé parler de putain. Istanbul est pourtant bien cette fille de joie, qui écarte littéralement ses jambes d'une rive à l'autre du monde, accouchant dans l'orgasme d'un flot de révoltés. Avec un gigantesque sourire pervers, elle invite tous ceux qui veulent s'y engouffrer et les aspire dans ses chaudes entrailles dont on ressort comme un diamant couvert de crasse. Le plus dur sera de couper le cordon. Istanbul fait le même effet que le baiser d'un amant turc en pleine foule, déposé avec retenue sur la joue, mais dans le même temps avec passion, juste à la commissure des lèvres, dévoilant la possibilité d'un amour éternel. Laissé dans un entre-deux lascif, sonné, on n'ose même pas se retourner sur le tarmac, imprégné d'un sentiment de solitude malgré ces milliers de camarades de fortune qu'on laisse derrière soi, mais empli de l'orgueil de ceux qui savent, on murmure en souriant les vers du prophète. Cette nostalgie est la nôtre.
La porte de l'Asie étant ouverte, partons jusqu'à Magadan, porte du goulag. C'est Margarita Carteron qui écrit ce texte publié dans Libération le 13 août 2012.
Lettre de la Colima. Si j'osais, je vous dirais que je n'ai pas envie de vous écrire. Je vous dirais que je n'ai rien à vous dire. Des gens comme moi n'ont jamais rien à raconter, rien à ressentir, rien à vivre. Je suis née et je vis dans une ville de transit, une ville qui sent la mort, une ville qui ne servait à rien d'autre qu'à faire passer des cœurs meurtris de froid et de faim vers une horreur encore plus grande. La seule ville au monde ayant une route dont les ossements de ceux qui la construisirent furent mélangés au goudron de la chaussée, la seule route des eaux menant à des mines d'or. Je suis née et je vis à Magadan, en Sibérie extrême-orientale, une ville fascinante de banalité, désarmante de désillusion, une ville emprisonnée entre la chaîne de montagnes Tcherki et la mer d'Okhotsk, le reste c'est de la toundra. Mes arrière-grands-parents se sont installés ici dans les années 30, peu après la fondation de la ville. Tous les hommes de ma famille étaient marins. Mon arrière-grand-père naviguait sur le Dolstroï, un cargo qui transportait les prisonniers vers l'archipel du Goulag. Il était aux machines, et on lui avait autant bourré le crâne qu'au reste de l'Union soviétique en lui affirmant que les esclaves qu'il transportait étaient des ennemis du peuple, qu'ils étaient pires que des animaux, car même leur viande ne valait rien. Je suis le descendant d'un homo soviéticus lambda et je suis tout naturellement devenu alcoolique. Je suis un oisif sans le sou, un sédentaire frustré, un oblomov sans fourrure, un marin d'eau douce. La haine que j'ai pour cette ville nourrit mon envie perverse d'y rester, pour pouvoir la critiquer encore plus, pour pouvoir regarder ses habitants, les maudire dans les yeux. Je ne pourrais pas vivre loin de cette ville, car je ne saurais simplement pas comment canaliser mon agressivité, ma frustration d'une vie manquée. Je ne pourrais plus rejeter ma haine sur mes semblables. Je ne sors de chez moi qu'en cas d'extrême nécessité, pour acheter du pain, de la vodka et du hareng fumé quand j'ai reçu ma pension. lire le journal sur le port lors des deux seuls mois de l'année où il ne gèle pas, ou pour jouer aux échecs avec l'un de mes rares amis dans un parc public. Le parc des Komsomol est un espace vert typiquement soviétique, beaucoup de goudron, si morcelé que les pissenlits réapparaissent entre les fentes, du gazon mal entretenu, parsemé de bouteilles de bière et de vodka, vides, de paquets de calmars séchés, vides, de seringues, vides aussi. Les manèges ne fonctionnent plus que les week-ends estivaux, faute de jeunes clients qui suivent de plus en plus leurs parents vers l'ouest. La ville se vide inexorablement depuis 20 ans, laissant seuls les vieux, les camés, les alcooliques, les marins et les nihilistes qui sont la plupart du temps une seule et même personne. Les vieux sont, comme partout ailleurs, les pires. Ils ne parlent jamais du passé de Magadan. Ils ne parlent jamais de ce qu'ils ont vu, ni pourquoi ils donnaient des pots de vin à la milice. Ils ne se demandent jamais pourquoi ils sont vivants et pourquoi ceux qu'ils ont vus passer ici ne le sont plus. Leur vanité leur dit que c'est normal, qu'ils l'avaient certainement mérité. Ils n'ont pas idée à quel point le nom de la ville où ils vivent faisait trembler le plus grand pays du monde, combien c'était perçu comme l'épicentre de l'enfer. Ils sont protégés par le fait de résider sous l'œil du cyclone depuis toujours et ne veulent entendre parler de rien d'autre que de leur quotidien de vieux, de leur médiocre récolte de pêche, de télévision, de politique, beaucoup de politique. La tension qui règne ici est insoutenable. Le vent glacial énerve, s'agrippe aux bottes. Je ne veux pas traverser le centre en pente, montagne dans le dos, à travers ces tours de béton, ces maisons mal chauffées, jaune pâle, vert pâle, bleu pâle, avec le toit en zinc, traverser les cours des immeubles, les bacs à sable fantômes, les bancs remplis de babouchkas s'engueulant sur les dernières élections truquées. Je ne veux pas arriver au marché sentant la viande avariée, pleine de mouches, les mains des bouchères pleines de sang touchant l'argent, se recoiffant, tâtant les couennes de porc. Je ne veux pas marchander avec les ancêtres, avec les tziganes, avec les paysans venus vendre leurs légumes noirs à prix d'or. Je ne veux pas passer devant les kiosques de pain, de cigarettes, de produits ménagers, de soutien-gorge, de saucisses. Je ne veux pas voir non plus la construction de nouvelles églises, toujours plus grandes, toujours plus dorées, comme si la taille pouvait racheter les fautes du passé et le scintillement des bulbes aveugler le ciel. Je vis dans une ville où la température maximale de l'année ne dépasse pas les 12 degrés en août et le sol ne dégèle jamais. La mise en abîme de ma solitude est assez amusante. Un isolement mental dans la région la plus isolée de Russie. 9 mois durant, bloqué dans mon logis infect, je regarde de ma fenêtre la morosité, le lourd ciel blanc et les quelques passants pressés tombant sur le verglas ou luttant contre le blizzard, je me moque d'eux. Je me dis qu'ils l'ont bien mérité, ces sacripants. Parfois, cependant, j'arrive à attraper des instants de grâce lorsque je fume à ma fenêtre, en Marcel, dans mon appartement surchauffé, Vladimir Vysotsky à la radio, la nuit, les rues désertes à la merci d'un froid mordant, silencieuse, je regarde la chose qui, je ne sais pour quelle raison, mais la plus chère et la plus émouvante au monde, l'image de la neige immaculée, éclairée par un lampadaire jaune. Je ne sais pas si nous sommes plus menacés par la bêtise aujourd'hui que dans les temps révolus, mais je pense que l'écriture est nécessaire à une forme de survie. Je sais que je ne partirai jamais d'ici. Je me suis condamnée à observer la folie de ce petit manège faisant le même tour depuis des générations. Je me suis condamnée à porter le poids du temps. Thank you.
Revenons nulle part et ailleurs, dans une ville anonyme qui peut bien sûr se trouver en France. Le portrait de cette ville a été dressé par Nathan Saint-Cam le 20 août 2012.
Nulle part et chez moi. Ma ville n'a pas de nom, ou plutôt, elle en porte plusieurs. Ce pourrait être Châteauroux, Blois ou Arras, ce serait la même chose. Et pourquoi pas une ville du Sud, Millau, Antibes ou Agen, peu importe. Elle fait partie de ces innombrables cités de province qu'on a tous traversées au moins une fois en se disant « Tiens, ça a l'air charmant ici. » Et puis, on n'y est jamais revenu. Pourquoi faire ? Pour tout un chacun, ma ville ressemble à toutes les autres. Pour moi, elle est unique. C'est ma ville anonyme. Dans ma ville anonyme, les gens évitent les mendiants comme partout. On a droit aux mêmes marginaux, percés et tatoués, avec leurs chiens crasseux. Ils nous insultent méchamment quand on refuse de leur donner de la monnaie. Ma ville a aussi son clochard attitré. Il arpente nos deux boulevards en chantant Hugo Frey, ivre selon ses moyens du moment. Tout le monde le connaît, et les jeunes se foutent de lui joyeusement. Quand il en a marre, il baisse son pantalon taché et urine devant les gens. Il peut tout aussi bien se soulager les intestins si les circonstances lui sont favorables. Ma ville anonyme a bien sûr un joli petit centre au charme provincial avec ses boutiques aux noms improbables comme Pas à Pas ou Aparté. Nos commerçants sont les mêmes poujadistes qu'ailleurs, jamais contents, qui râlent sans arrêt et parlent de la crise à tout bout de champ. Et les clients aiment ça. Ma ville anonyme a son lot de cafés, restaurants et bars. On les connaît tous par cœur. On y voit toujours les mêmes têtes, les mêmes jours, aux mêmes heures. C'est à la fois rassurant et effrayant. Devant son café ou sa bière, on se dit qu'on n'est pas comme son voisin de comptoir et qu'un jour, on sera loin de tout ça. Mais on y retourne chaque semaine, comme tous les habitués. Ma ville anonyme possède un seul parc dans son centre-ville. Malheureusement, il est situé à côté du lycée et envahi constamment par de jeunes désœuvrés. Ils passent leur temps vautrés dans l'herbe à fumer ou sur les bancs à se bécoter. Certains s'amusent avec les canards, parfois vertement. Finalement, ce sont ces derniers que je préfère dans le parc. Ma ville anonyme, comme toute cité d'un territoire rural, est peuplée de réactionnaires qui aiment les vaches et l'authenticité. Résultat, le maire est de droite, il va à la messe tous les dimanches et il cumule les mandats. Il paraît qu'il est sympa en public, mais détestable avec ses collaborateurs. Bref, un vrai politique. Ma ville anonyme est moderne. Elle a le haut débit. Il a fallu que notre maire monte à Paris pour ça. Il est presque rentré en héros quand on a su qu'on serait raccordé au monde de la toile à grande vitesse. Du coup, la municipalité fait des initiations à Internet dans les maisons de retraite. Ça distrait les vieux en attendant la fin. Ma ville anonyme a son lot d'embouteillages tous les matins et tous les soirs à la même heure. En province, on est parfois plus idiot qu'à Paris. On vit sans les avantages de la capitale, mais on est capable d'en supporter les inconvénients. Ma ville anonyme, c'est aussi son journal local. Un des derniers quotidiens si petits en France, une vraie fierté. On y trouve les horaires de loto, les dates des concours de pétanque et le plus intéressant, les séances du cinéma. Le plus drôle dans notre journal, c'est l'orthographe. Il y a des fautes partout, même dans les titres et parfois à la une. Les journalistes de ma ville sont comme les autres. S'ils étaient bons, ils ne seraient plus là. Ma ville anonyme, c'est également son club sportif fétiche. Ils sont des milliers qui, chaque dimanche, viennent déverser le fiel de toutes les frustrations de la semaine sur l'équipe adverse ou sur l'arbitre, suivant l'ampleur du score. Je me joins à eux allègrement en proférant un flot d'insultes surprenants. Quand le match se termine, je rentre chez moi, tranquille et apaisé, qu'on ait gagné ou perdu. Ma ville anonyme a sa grande fête populaire estivale. Adolescent, j'attendais cet événement avec la fièvre d'un jeune premier, emmenant une demoiselle au bal. Aujourd'hui, il est de bon ton d'ignorer cette manifestation populaire pour ringard et de ne pas y aller. Au final, cela permet de distinguer les gens bien comme il faut des autres. Ma ville anonyme a aussi ses codes petits bourgeois. Ma ville anonyme a bien sûr son entreprise familiale qui fait vivre la cité. Apparemment, elle nous sauve de la misère et si elle disparaissait, ma ville dépérirait aussitôt. La croyance incontestée de tout un chacun. Alors, tous les habitants vouent une reconnaissance innée et héréditaire à cette fameuse famille bienfaitrice et millionnaire. J'ai travaillé une fois dans la grande entreprise de ma ville, un été, pour me faire de l'argent. C'était comme toutes les usines, répétitif, abrutissant, aliénant et ennuyeux à mourir. Ma ville anonyme compte évidemment son intellectuel de référence. Il s'agit d'un professeur reconnu, très vieux bien sûr, qui vit la plupart du temps à Paris. Il donne des cours dans des universités prestigieuses en France et siège sous la coupole avec d'autres intellectuels comme lui. À chaque débat local inextricable, on lui demande son avis en dernier recours. Son jugement fait souvent autorité parmi la population qui l'admire. Il est le fils de la cité qui a réussi dans le grand monde. Je ne l'ai vu qu'une fois, et si on ne m'avait pas dit qui il était, je l'aurais pris pour un vieillard sénile. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans ma ville anonyme ? L'ordinaire du quotidien avec ses banalités, la médiocrité humaine omniprésente, l'envie sournoise de tous d'être différents et la croyance sourde d'être meilleur que les autres. On y voit un échantillon d'humanité singulière et représentative. On y voit les gens. Ma ville anonyme, c'est nulle part et c'est chez moi. L'endroit que je veux quitter à chaque instant, mais où je sais que je reviendrai toujours. C'est le berceau de mes rêves et la scène de ma réalité. Ma ville anonyme, je l'aime et je la hais, mais c'est ma ville.
Anne, Armelle et Philippe ont lu et préparé cette émission. Yvan et Claude Michel en ont assuré la technique.
Les musiques qui ont été diffusées étaient extraites de l'album Istanbul Oriental Ensemble, intitulé Caravansérail, puis un extrait de la symphonie Jeunesse de Sergueï Rachmaninov. Enfin, ce fut Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, imaginé par Yann Tiersen.
Si cette première émission vous a plu, sachez que nous vous proposons un deuxième voyage qui vous emmènera en Asie. À bientôt sur Radio G.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 et la page d'accueil d'Impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez.